Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent. Ça fait un moment qu'on vous avait un peu lâché, mais nous étions là, nous étions en train de travailler sur des gros projets pour faire bouger, pour faire avancer l'éducation en Côte d'Ivoire. Je suis Marc André, comme vous le savez tous, et je suis encore avec mon frère Franck. Comment tu vas, Franck?
Hello Landry, hello à tous nos auditeurs, je vais super bien Landry et je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Ivoire Talent.
Super, super. Le plaisir est partagé. Je suis aussi autant ravi que toi. Mais en fait, aujourd'hui, on a un invité spécial, hein, Franck. On a un invité spécial qui va nous parler un peu, qui va partager avec nous son parcours qui est assez alléchant, qui pourra aussi inspirer beaucoup de jeunes.
Oui, en fait, pour le présenter, il faut dire que je vais pas être forcément très long. Je peux dire tout simplement que lorsqu'on dit que l'Afrique regorge de talents, eh bien, cette personne en fait partie. Pour l'avoir rencontré et pour l'avoir fréquenté personnellement, je peux confirmer que c'est un talent pur et je vais pas en dire plus. Je vais juste l'introduire en donnant son nom et il pourra lui-même nous parler de son parcours académique et professionnel. Donc, nous accueillons aujourd'hui dans ce podcast Monsieur Bogi Fernandez. Donc, bienvenue Fernandez.
Avant tout propos, j'aimerais dire merci à l'équipe d'Ivoire Talent pour cette opportunité qu'ils me donnent de pouvoir m'exprimer en fait sur mon parcours académique et professionnel et en même temps d'avoir à cet échange pour parler en fait de mon secteur d'activité.
Bienvenue, bienvenue chez toi. Tu nous connais plus ou moins très bien. Donc, tu es chez toi, Fernandez. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Mais j'aimerais rentrer dans le vif du sujet pour que tu essaies de nous parler un peu de ton parcours, premièrement de ton parcours académique. Et ensuite, tu nous parles un peu de ton parcours professionnel.
D'accord. Je te remercie, Matt Landry. Pour parler en fait de mon parcours académique, j'aimerais bien commencer par le bac. Donc en fait, j'ai eu le bac C au lycée moderne de Beaunois. Et à l'issue de ce bac-là, j'ai postulé pour le concours d'entrée à l'Institut national polytechnique, où j'ai intégré les classes préparatoires scientifiques. Donc après 2 années de classes préparatoires scientifiques ou technologiques, MPSI, MP, on le dit, j'ai pu intégrer en fait l'école supérieure d'industrie en sciences ingénieurs. Donc j'ai intégré la filière des ingénieurs génie chimique option pétrole. Donc j'ai passé 3 ans et à l'issue de ces 3 années-là, j'ai pu soutenir mon diplôme après avoir passé un stage chez l'un des opérateurs pétroliers en Côte d'Ivoire, Canadian Natural Resources, CNR, à Abidjan. Et à l'issue de ce stage-là, j'ai pu valider mon diplôme, comme je l'ai dit, mon diplôme d'ingénieur génie chimique option pétrole. Et c'est à partir de là, en fait, que l'histoire, cette belle histoire, je voulais dire, dans le domaine du pétrole a commencé. Et juste après, en fait, ce stage, j'ai intégré, en fait, une petite entreprise dans le domaine des services pétroliers. Qu'on appelait Prometric Offshore Services, où j'étais en fait l'adjoint du directeur général et j'étais en charge des opérations et aussi de la politique sécurité de l'entreprise. Donc, j'ai passé pratiquement 9 mois avant d'être recruté par la multinationale Schlumberger comme ingénieur de terrain dans leur département fourrage. Le pays où j'ai commencé en fait cette carrière dans le domaine du forage a été les Émirats Arabes Unis, précisément à Abu Dhabi.
Wow. Donc, si je comprends bien, tu es toujours aux Émirats ou bien tu n'y es plus?
C'est une très bonne question. Présentement, là, j'ai pris en fait une mise à disponibilité dans le but de me former. Donc, je suis présentement au Canada. Je suis actuellement mes cours pour mon MBA. Donc, c'est un biais général, mais plus orienté en stratégie et finance.
Super, super. Wow.
En tout cas, le parcours est vraiment très clair, hein, très clair, très détaillé. Et on voit tout de suite le switch entre Côte d'Ivoire et Émirats Arabes Unis, précisément Dubaï. C'est intéressant. Personnellement, pour moi, le monde du pétrole est assez opaque. Hein. J'avoue, moi, tout ce que je connais, c'est les stations d'essence. Mais j'aimerais que, grâce à ce podcast-là, tu puisses nous dire un peu que tu puisses nous parler un peu plus de ce domaine, le monde, le domaine du pétrole. Et aussi, pourquoi as-tu choisi cette filière? Pourquoi as-tu choisi cette filière? Et comment est-ce que ce monde est constitué? Quels sont les acteurs? Comment l'écosystème, en fait, du pétrole est constitué?
D'accord. Je te remercie, Fadé, pour cette question. J'aimerais, dans un premier temps, sauter en fait sur le deuxième volet. Pourquoi j'ai commencé avec, j'ai décidé de m'intéresser au domaine pétrolier. Donc, il faut dire que dans un premier temps, moi, je suis originaire de Jacques-Ville. Et je me rappelle qu'en classe de seconde, faisant un tour au village, comme on le dit, j'ai eu la chance de me promener en fait sur la plage. Et lorsque la marée est Et quand vous rentrez à Jacques-Ville, lorsque la marée est quand même basse, vous avez la possibilité de voir les plateformes pétrolières sur la mer. Donc, j'étais vraiment impressionné par ce balai incessant d'hélicoptères qui venaient et on avait la possibilité de voir en fait les plateformes et toutes les opérations qui s'y déroulaient. Donc, en fait, cette curiosité-là a commencé à naître. C'est vrai que c'était un secteur qui était pour moi, qui était étranger. Donc, je voulais en savoir davantage. Et j'ai commencé à me renseigner, savoir quelle formation, quelle école offrait en fait une formation qui permettait d'embrasser en fait une carrière dans ce domaine. Donc c'est plus ou moins ça en fait ce qui m'a motivé à embrasser cette carrière. Pour revenir à la première question, c'est vrai, le milieu du pétrole est quand même vaste. C'est un écosystème assez vaste et les experts vont qualifier cette industrie d'industrie lourde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur pétrolier est divisé, on va le dire, en trois grands groupes. Donc, on a le upstream qui concerne en fait l'exploration et la production. Donc, on fait l'exploration sur la mer ou sur terre. Ça concerne les forages, toutes les technologies de diagraphie pour savoir en fait si le sous-sol regorge en fait des ressources pétrolières et gazières. On a le midstream. En fait, quand on finit de forer, on produit. Il faut pouvoir déplacer le pétrole brut vers une zone pour pouvoir faire sa transformation en produit fini que nous connaissons. Donc, il y a des tankers, c'est une industrie à part entière qui se charge de prendre ces produits bruts-là qui ont été produits vers les unités de raffinage. Et ça, c'est le midstream. Le downstream, c'est en fait tout ce qui est pétrochimique, raffinage et aussi distribution. Donc, c'est tout un ensemble d'écosystèmes qui regorge des ingénieurs, qui regorge des financiers, des informaticiens, qui regorge aussi les ressources humaines. En fait, c'est une industrie à part entière. Un secteur assez diversifié, je pourrais dire.
Voilà qui est vraiment plus clair pour moi.
Ok. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça nous donne un peu une vue assez panoramique de ce secteur qui est peut être considéré comme un secteur un peu opaque. Mais moi, j'aimerais savoir quel est le bon profil, c'est-à-dire pour pouvoir perform, c'est-à-dire pour pouvoir mieux s'exercer dans ce domaine, selon toi.
Voilà, très bonne question. En termes de profil, il faut dire, comme je l'avais signifié auparavant, c'est un secteur assez diversifié, mais je pense que tout au long de l'interview, je vais plus donner plus de détails sur la partie ingénierie, parce que c'est ce que j'ai vécu, que j'ai expérimenté tout au long de ma carrière. Mais il faut dire qu'en termes de profil idéal, la base dans le domaine pétrolier, c'est la formation. Il faut avoir une formation, il faut partir de là, il faut avoir une base. Et quand je dis une base, il ne faut pas voir seulement le domaine, avoir par exemple un diplôme d'ingénieur en pétrole. Non, pas forcément. On peut avoir un diplôme en mécanique, en électricité, en télécom, en informatique et faire carrière dans le domaine. Tout comme on peut avoir aussi une formation en finance, en ressources humaines, en marketing et aussi faire carrière dans le domaine du pétrole. Mais pour ce qui est du profil, ce que en fait les professionnels du secteur recherchent, je tiens à rappeler que dans le secteur, il y a plusieurs acteurs. Donc, il y a les entreprises nationales et internationales. Nationales, on va prendre le cas de Petrosi ou la SI. International, vous avez Shell, vous avez BP, ExxonMobil. À côté, vous avez des professionnels qui sont en fait des équipementiers. qui apporte le service, qui apporte la technologie pour pouvoir aider ces, ces entreprises nationales et internationales à pouvoir exploiter en fait le gisement. Donc, vous avez Schlumberger, vous avez Baker Hughes, vous avez Halliburton, NOV, etc. Donc, c'est un peu ça le système. Donc, pour revenir au profil, que ce soit les entreprises nationales, internationales ou même les entreprises de services, il faut d'abord avoir une base. Et à partir de cette base, il y a des soft skills qui sont recherchés. Et quand je parle de soft skills, par exemple, il faut être en mesure de pouvoir travailler en équipe. Il faut être créatif. Il faut être curieux ou curieuse. Il faut avoir cette capacité à pouvoir travailler sous pression, avoir capacité à pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc, c'est tout cet ensemble de soft skills. Être aussi un bon communicant, c'est vraiment important. Donc, c'est un ensemble de soft skills et aussi de connaissances dans le domaine. Donc, je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un qui est des ressources humaines peut toujours faire carrière. Il suffit d'avoir ces soft skills que j'ai mentionnés. Il y a aussi un autre élément qui est vraiment important pour avoir ce profil. Il y a un profil qu'ils recherchent. C'est la communication. Et quand on parle de communication, on parle de langue. Et la langue internationale, la langue de surcroît dans le domaine pétrolier, c'est l'anglais. Donc, pour celui qui veut faire carrière en termes de profil recherché, c'est un facteur à ne pas négliger. L'anglais est vraiment, vraiment primordial. Que ce soit un forage qui se passe en Russie, au Venezuela, au Canada, en Afrique du Sud, en Angola, la langue d'expression de communication sera l'anglais. Donc, c'est ce que je peux dire en termes de profil de recherche.
Oui, j'aimerais rebondir sur l'aspect anglais, là, parce que, quel que soit le domaine, on a reçu plein de personnes, plein d'invités ici pour nous parler un peu de leur parcours et autres, mais l'anglais revenait et l'anglais revient toujours. C'est juste pour dire à nos auditeurs de ne pas négliger l'anglais, même si tu es dans une filière scientifique ou quoi que ce soit, l'anglais, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est-à-dire, ça t'attendra, quel que soit le chemin que tu vas choisir. Et c'est l'anglais qui permet aussi d'ouvrir certaines portes, professionnellement, comme si tu veux évoluer même au niveau même de l'entrepreneuriat. Donc, c'est important de se concentrer et de pouvoir améliorer son anglais.
Oui, déjà, c'est très bien dit, Landry. C'est très bien dit. On ne finira jamais de rappeler l'importance de l'anglais. Et je veux revenir aussi dans la réponse de Fernandez tout à l'heure. Tu as dit qu'il faut avoir une base. Et je me pose la question de savoir, est-ce que la formation que tu as reçue à l'INPHB te permettait d'être directement opérationnel lorsque tu as été recruté par Schlumberger? Ou alors, si ce n'est pas le cas, quelles sont les autres formations que tu as reçues pour pouvoir être opérationnel? Et en même temps, quel est le gap en fait, qu'il fallait combler entre la formation que tu as reçue à l'INPHB et ta capacité à vraiment être opérationnel et performer pour l'entreprise Schlumberger?
D'accord, très bonne question, Fadé. Pour répondre en fait, au premier volet de ta question, je peux dire que la formation à l'Institut National Polytechnique a été un bon apport pour moi. Dans la mesure où certaines matières que j'ai eues à avoir en cycle ingénieur, telles que la recherche opérationnelle, j'ai eu aussi des formations en gestion d'équipe, j'ai eu des formations un peu techniques dans le domaine en fait, de la chimie qui m'ont vraiment aidé, surtout sur des projets où je devais faire appel à certaines technologies qui sont en rapport avec les activités nucléaires. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Pour être honnête avec vous, je ne peux pas dire que cette formation m'a permis de couvrir en fait le poste que j'occupais. Et vous savez, Schlumberger est une entreprise de services avec sa propre technologie. Et cette technologie-là, vous n'allez pas trouver chez les autres compétiteurs comme Baker Hughes, Halliburton. Donc, il fallait que je sois formé en fait. Donc, j'ai eu cette possibilité-là de suivre des formations en Russie, aux États-Unis, en France, pour pouvoir maîtriser en fait les technologies qui sont utilisées dans le domaine du forage pétrolier. Mais je reviens encore sur un autre aspect qui m'a permis d'exceller en fait. Et ce sont des choses que j'ai réussi à développer quand j'étais étudiant à l'INPHB. Comme je l'avais dit, c'est le côté soft skill. Donc, quand vous avez déjà expérimenté la vie d'association, quand vous étiez, par exemple, sur un campus universitaire, vous voyez, ça vous permet, en fait, de travailler en équipe. Ça vous permet d'accepter un feedback revenant des autres. Ça veut vous permettre, en fait, d'être à l'aise en travaillant dans une équipe assez multiculturelle. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir gérer votre temps, de pouvoir travailler sous pression. Donc, en fait, ce sont ces soft skills-là qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Quand je fais, en fait, une certaine réflexion sur ma carrière, dès le début, j'ai commencé à travailler sur des projets. J'ai travaillé sur des projets à Abu Dhabi, à Dubaï, en Irak, au Pakistan, en Égypte et au Kurdistan, où j'étais chef d'équipe avec une équipe assez multiculturelle. Je pouvais travailler avec des Vietnamiens, des Vénézuéliens, des gens qui viennent d'Europe, d'Amérique, en fait, et être à l'aise et pouvoir satisfaire, en fait, les demandes du client. Donc, c'est cet ensemble-là de soft skills et cette base qu'on a reçue à l'école, parce que vous savez les conditions dans lesquelles nous avons reçu nos formations de base en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tous ces facteurs-là mis ensemble qui, je peux dire, m'ont vraiment aidé à pouvoir être à l'aise dans mon milieu professionnel et à pouvoir gravir aussi les échelons.
Wow! J'aime bien cette affaire de soft skills-là parce que, voilà, c'est vraiment important. On avait reçu Marlène, à qui je fais un coucou ici, qui est une experte en ressources humaines. Elle nous avait aussi parlé de l'importance des soft skills lorsqu'un recruteur, par exemple, lorsque tu es face à un recruteur, lorsqu'un recruteur regarde ton CV et tout, que voilà, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Mais j'aimerais rapidement essayer de changer un peu de cadre pour essayer de parler en termes d'évolution, en termes de développement, genre en termes de développement professionnel au niveau des pétroliers. C'est-à-dire, quelle est l'évolution normale? Quelles sont les différentes étapes?
D'accord. Je vais prendre, en fait, comme vous le savez, le secteur il est quand même vaste. Je vais vous donner deux exemples assez différents. On va prendre une entreprise nationale comme Petrosi ou si vous voulez, une entreprise internationale comme Shell. Et je vais prendre des entreprises de services comme Schlumberger ou Halliburton. Donc, pour une entreprise nationale comme Petrosi ou Shell, par exemple, le jeune étudiant qui vient de rentrer va commencer sa carrière, supposons, dans le domaine de l'ingénierie. Donc, il va travailler sur un certain nombre de projets et ces projets-là, à la fin, vont lui permettre de développer certains skills, je vais dire. Et à la fin, c'est-à-dire sur du long terme, cet ingénieur-là est appelé en fait à occuper une position de manager. Donc, vous commencez au bas de l'échelle où vous travaillez certainement sur le terrain, vous avez une certaine expérience et vous évoluez dans l'entreprise où vous avez des responsabilités qui augmentent au fur et à mesure. Mais pour le long terme, vous êtes appelé à être un manager, soit à être un directeur des opérations ou peut-être même à occuper un poste assez stratégique au niveau de l'entreprise. Donc, on peut commencer en tant qu'ingénieur production, ingénieur forage, et puis se retrouver plus tard comme directeur des opérations au niveau de la production ou même du planning et tout ça. Donc, c'est sur du long terme. Pour quelqu'un qui a une formation en ressources humaines, bien évidemment, il va commencer en tant que recruteur, il va gérer en fait le personnel, mais la finalité, c'est de se retrouver au niveau de la senior avec une responsabilité assez élevée. Pour ce qui est des entreprises de services comme Schlumberger ou Halliburton vous donnent la possibilité de commencer en étant ingénieur à travailler sur pas mal de projets avec leur technologie, la technologie qui est propre à eux. Vous travaillez sur plusieurs projets, vous travaillez aussi avec le client et petit à petit, vous gravissez les échelons. Donc, vous passez en fait de cette étape d'ingénieur à vous retrouver au poste de manager. Et la finalité, quand vous travaillez dans ce genre d'entreprise, c'est de vous retrouver après 20 ans, 25 ans de carrière en étant avec une position d'expert. Et si vous avez d'autres aptitudes managériales, vous pouvez vous retrouver même dans le cercle fermé du CEO. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même prometteur. Ça bouge, c'est un secteur qui bouge. où il y a pas mal de facteurs extérieurs qui peuvent vous permettre de pouvoir apprendre de nouvelles choses et aussi tester de nouvelles choses. Donc, on peut commencer ingénieur dans le domaine pétrolier et se retrouver, par exemple, comme VP ressources humaines, ou on peut se retrouver comme VP marketing, ou on peut se retrouver comme VP stratégie. Donc, la finalité, c'est sur le côté managerial.
Mm-hmm. Intéressant. Ouais, c'est clair, parce que là, tu as fait ressortir clairement soit devenir expert ou bien évoluer dans la classe managériale et pourquoi pas dans le coup dire en étant VP. J'avais une question, mais tu as répondu à la question déjà, parce que je me demandais quelles étaient les aptitudes, mais tu as beaucoup parlé des soft skills et travailler en équipe. Donc, je pense qu'à ce niveau, c'est plus ou moins clair pour moi. Et donc, j'aimerais demander quelle était ta dernière position, puisque là, tout à l'heure, tu as décrit un peu les différentes étapes d'évolution au sein d'une entreprise de type service dans le domaine pétrolier. Mais à ton niveau, quelle était ta dernière position avant que tu partes pour ton MBA?
D'accord, très bonne question. Donc, avant que je commence ma formation de MBA au Canada, j'occupais le rôle de Product and Service Delivery Manager, donc que j'ai exercé en fait au Gabon. Donc le headquarter à Dubaï avait trouvé important que je fasse un tour au Gabon pour en fait aider le département forage qui avait un pic d'activité. Donc j'ai fait un tour au Gabon et mon rôle en fait c'était d'être un pont entre le service marketing, la maintenance, le service sécurité, les ressources humaines et nos clients qui étaient des compagnies pétrolières internationales. Donc, c'était plus des projets offshore. Moi, j'étais chargé en fait de coordonner en fait les projets de forage. Et comment ça se passe? Il y a le client qui vient et nous dit, écoute, j'ai mon gisement. Et bon, je veux mettre en valeur ce gisement pétrolier-là. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons en fait avec le planning. Nous faisons une étude et nous disons à ce client-là, bon, écoute, pour pouvoir mettre en valeur ce gisement, il y a cette technologie de pointe-là qui pourra répondre aux besoins de ce gisement. Donc, après avoir fait cette étude technique, moi, en fait, j'envoyais mon équipe sur le terrain. Donc, c'est une équipe essentiellement composée d'ingénieurs que j'envoyais sur les plateformes pétrolières et ils commençaient l'exécution en fait de ce projet de forage là qui pouvait s'étendre sur une période allant d'un mois à 6 voire un an. Donc j'étais chargé aussi de la gestion du personnel, la gestion des ressources, donc des équipements. Donc il y a des équipements que je pouvais faire venir de Norvège, des équipements que je pouvais faire venir d'Arabie Saoudite, des équipements que je pouvais faire venir des États-Unis. Et je coordonnais aussi des équipes, comme j'avais dit. Je pouvais faire venir un ingénieur d'Australie, un ingénieur de la Chine, un ingénieur de Côte d'Ivoire, du Ghana, comme de France. Et en même temps, j'étais chargé aussi de l'aspect finance. Donc, puisqu'on parle de... C'est une source de revenus pour notre entreprise. Donc, je gérais en fait l'aspect finance et gestion de tout ce qu'il y a comme ressources financières, ressources énergétiques et tout. Donc, j'étais en fait l'interface, je servais d'interface entre le client et l'entreprise, mon entreprise pratiquement. Donc, c'est plus ou moins ce que je faisais dans mon dernier rôle avant de commencer mon MBA.
Justement, ça t'a sûrement préparé au MBA parce que tu faisais pratiquement tout, ressources humaines, gestion des finances, budget et autres. C'est vraiment intéressant. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as réussi? Parce que tu as bien commencé au niveau opérationnel. Après, tu es passé au niveau service delivery. Donc, ouais. J'aimerais savoir un peu comment, selon toi, tu as réussi à gravir tous ces échelons-là pour arriver à ton dernier poste.
D'accord, très bonne question, Matt Landry. Moi, pour dire en termes de parcours, je peux dire que c'est aussi la grâce de Dieu. Quand je commençais à Abu Dhabi, D'abord, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. C'était la première fois pour moi d'être à l'extérieur. Et c'était, vous savez, les pays du Golfe, c'était un environnement assez difficile, je dois l'avouer. Et avec l'anglais, qui n'était pas ma première langue, donc il fallait s'adapter le plus rapidement possible. Donc, j'ai commencé en fait en tant qu'ingénieur de terrain. J'ai travaillé sur plusieurs projets. Mais je peux dire que ce qui a fait ma force, je ne veux pas me vanter, mais je peux dire que ce qui a été un avantage pour moi, c'était ma capacité à pouvoir m'adapter, m'adapter sur le terrain et ma capacité aussi à pouvoir apprendre très rapidement. En fait, c'est ce qui est recherché dans le domaine. Parce que la technologie, il y en a. Les projets sont là et les demandes du client sont assez élevées. Donc, les attentes sont quand même grandes. Donc, les entreprises recherchent des personnes qui seront en mesure de pouvoir cerner en fait les choses assez rapidement, apprendre rapidement et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je ne vais pas me voiler la face, ça n'a pas été du tout facile, mais je peux dire que c'était cette capacité à pouvoir m'adapter, à travailler sous pression, à pouvoir apprendre rapidement et à pouvoir m'adapter qui ont été l'un des facteurs de mon ascension. Donc, j'ai commencé en tant qu'ingénieur de terrain, puis j'ai été promu en tant que ingénieur senior. Et en fait, j'ai travaillé plus tard sur un projet pour pouvoir introduire une nouvelle technologie qui a permis à ma boîte, en fait, dans le temps, en 2016, de pouvoir faire, si je fais la conversion en francs CFA, de pouvoir faire rentrer pratiquement 3 milliards de francs CFA en moins de 3 mois. Donc, ça m'a propulsé. Wow. J'ai été promu en même temps. Ils appellent General Field Engineer. Donc, juste après ça, j'ai passé pratiquement 6 mois à faire un peu plus de coaching, du mentorat pour les autres ingénieurs qui venaient de rentrer dans la boîte. J'ai géré aussi pendant un moment des ressources humaines et avant d'être promu Product and Service Delivery Manager. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Et aussi, vous savez, avec les entreprises comme Schlumberger, l'attente est aussi élevée en termes de formation. C'est-à-dire, quand on vous envoie dans une université, que ce soit en Russie ou aux États-Unis, c'est comme si on se retrouvait sur les bancs. Donc, les attentes en termes de résultats sont là. Et je pense que ça a aussi joué en ma faveur parce que en termes de formation, je n'ai pas eu de problème en tant que tel et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé.
Moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est aussi finalement, c'est ta capacité à pouvoir toujours apprendre, t'adapter, ouais. Ne pas te fatiguer d'apprendre, t'adapter et puis chercher à toujours performer, à donner le meilleur de toi-même. C'est vraiment des qualités interpersonnelles, en fait.
Justement, en termes d'apprentissage, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut toujours apprendre, avoir. Moi, j'appelle, il y a quelque chose que j'aime appeler, j'appelle ça le board of directors. En fait, il faut avoir des mentors qui sont là, qui sont déjà dans la boîte. Et à chaque moment, quand vous avez vous avez de petits soucis ou il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous vous référez à eux. C'est comme une sorte de boussole et ça aide vraiment dans une entreprise. Voilà. Donc, le mentorat m'a beaucoup vraiment aidé aussi.
En tout cas, bravo pour cette qualité-là, de pouvoir toujours apprendre. Et on a quand même souvent écho de certaines situations dans le domaine du pétrole qui font que des employés sont licenciés, malheureusement. On en entend souvent parler et je pense qu'on a souvent eu également des connaissances qui ont été touchées par ces problèmes-là, soit la baisse des coûts qui font que la baisse des coûts qui fait que des employés sont licenciés. Donc, j'aimerais te demander, est-ce que c'est vrai que c'est effectivement récurrent, ces crises-là dans le domaine du pétrole? Et comment est-ce que vous arrivez à juguler avec ces crises et garder l'emploi, malgré cette situation qui peut être aléatoire?
Très bonne question. Fadé, ce que j'aimerais dire concernant les crises pétrolières, ce sont des crises à répétition, c'est un peu cyclique. En fait, il y a des périodes où ça va et après, ça ne va pas. Et il y a une raison, en fait, il y a une explication à cela. Le pétrole, en fait, est est un produit de base. Et comme tout produit de base, il est posé, en fait, sur le principe de l'offre et de la demande. J'aime expliquer aussi cette crise-là aux gens en prenant ce petit exemple. Vous savez, le marché, la banane sur le marché, la banane plantain. Donc, quand vous avez un excès de banane plantain sur le marché, vous voyez, tous les prix chutent. Et quand il y a un manque de banane sur le marché, les prix grimpent. Donc, c'est pareil, en fait, dans le domaine du pétrole. C'est vrai qu'il y a des facteurs géopolitiques, mais en fait, c'est la raison de toutes ces crises. Donc, quand vous avez un surplus de production au niveau mondial, les prix vont baisser. Et quand les prix baissent, il n'y a plus d'investissement pour pouvoir forer. Et ça fait qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont en fait dans le secteur qui reçoivent de plein fouet, en fait, je peux dire, le résultat de ce genre de situation. Donc, on a eu une crise en 2008-2009. C'était lié aussi à la crise économique. On a eu une crise en 2013-2014 où il y avait un surplus de production sur le marché et aussi sur le plan géopolitique, on avait les États-Unis qui dépendaient des pays du Golfe et qui ont connu cette technologie de pouvoir avoir du pétrole à partir du gaz de schiste, de la roche de schiste. Donc, au niveau des États-Unis, ils avaient cette capacité-là de pouvoir avoir du pétrole sur leur propre sol et pouvoir répondre à la demande américaine. Donc, vous avez un surplus au niveau du monde et les États-Unis qui ne dépendent plus de ces pays du Golfe, de la production des pays du Golfe. Donc, on a un surplus sur le marché, les prix baissent et il y a plusieurs acteurs qui sont impactés. Ce sont des crises à répétition. Par exemple, en 2019, nous avons commencé avec la crise, la pandémie du corona, qui a impacté aussi le secteur puisque les gens ne pouvaient plus se déplacer. Et ça continue toujours. Mais moi, mon conseil, ce que j'aimerais dire, en fait, pour pouvoir garder son emploi dans ce genre de situation, parce que quand cette crise arrive, les entreprises doivent forcément, pour survivre, se débarrasser d'une partie de leur personnel. Et moi, je me rappelle, j'ai expérimenté cela et j'ai eu même, pour cette dernière crise-là, à faire partie de ce comité-là qui devait choisir, en fait, les personnes à licencier. En fait, les critères, on se bat sur quoi? Quand il y a ce genre de crise, on cherche à retenir les meilleurs. Donc, on se base en fait sur la performance. Qui en fait peut rester là et quand il aura, par exemple, la situation va redevenir à la normale, sur qui on peut compter. Donc, c'est pour dire que pour pouvoir garder son emploi, il y a pas mal de facteurs, mais la performance nous suit toujours dans ce genre de situation. La performance nous suit toujours. On cherche à garder les meilleurs et il faut toujours chercher à toujours exceller en ce qu'on fait. Il y a une autre chose, il faut aussi s'adapter. Parce que quand il y a ce genre de situation, les entreprises cherchent à transformer leur business model, je pourrais dire. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la tendance, c'est au niveau de la transformation des opérations pétrolières. Donc, on a un changement radical de ce qui se faisait il y a 20 ans de cela. Maintenant, c'est plus l'introduction du digital. C'est l'introduction de l'intelligence artificielle. C'est l'introduction du cloud computing, de la cybersécurité, de tout ce qu'il y a comme machine learning. Donc, en fait, on a ce mouvement-là de toutes les entreprises pétrolières vers le digital, vers tout ce qu'il y a en termes de technologie en rapport avec l'intelligence artificielle, machine learning, IoT et tous ces concepts-là. Donc, en tant qu'étudiant ou ingénieur, il faut pouvoir lire, en fait, tous ces mouvements-là et pouvoir s'adapter à la situation actuelle. Donc, c'est ce que j'aimerais dire.
Wow. c'est tellement clair ce que tu entends, vas-y, parce que c'est ça, il faut lire entre les lignes. Il ne faut pas rester cantonné dans un domaine spécifique, parce qu'à la base, lorsqu'on est ingénieur, il y a le mot génie d'ingénieur. Donc, il faut être à même de pouvoir se transcender, il faut être à même de pouvoir se métamorphoser et s'adapter à toutes sortes de situations. Vraiment, c'est très bien dit. Je pense que ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent, doivent vraiment noter ça dans un joli petit calepin pour mettre ça de côté. Il faut être prêt à se réadapter, à se réinventer. C'est très important. D'accord, moi j'aimerais juste savoir, bon tu as un peu parlé de ça, mais est-ce que tu peux donner un peu plus de conseils à ceux qui aimeraient vraiment embrasser cette carrière dans le pétrole, dans le domaine pétrolier? Est-ce que tu peux leur donner des conseils, comment s'y prendre, comment se préparer pour peut-être les entretiens? J'ai entendu que pour Schlumberger par exemple, il y a une suite de tests psychotechniques qu'il faut prendre. Ensuite, il y a des entretiens. Bon, en tout cas, tu es passé par toutes ces étapes-là. quel conseil tu peux donner à nos jeunes qui nous écoutent?
D'accord. Le conseil que j'aimerais donner, sinon les conseils, mais je voulais commencer par le premier, je pense que c'est le plus important, c'est avoir cette vision. Voilà, tout commence par une vision. Et cette vision, on n'a pas besoin d'attendre, je vais parler pour les plus jeunes, d'attendre d'être en terminale avant d'avoir cette vision. Ça peut commencer depuis la classe de 6e. Donc, avoir cette vision, oui, c'est un secteur qui me fascine. C'est un secteur, je pense que je pourrais faire carrière. Ça, c'est la première chose. Donc, tout part d'une vision. La deuxième des choses, c'est avoir une formation. Donc, trouver une formation qui est quand même adaptée à ce secteur. Mais comment trouver la bonne formation? C'est en ce sens-là que nous avons des plateformes comme Ivoire Talent qui vous permettent de vous mettre en relation avec des professionnels qui sont dans le secteur. Donc, je reviens encore sur le réseautage, sur le mentorat. Il est vraiment important dans ce domaine de pouvoir tisser une relation avec quelqu'un qui a déjà un pied dans le secteur. Voilà. Et là, Ivoire Talent fait un travail assez remarquable. Donc, avoir une vision, avoir un coach, je vais dire, ou être en relation avec un professionnel du secteur qui sera la personne là en même de nous guider à choisir la formation adaptée et aussi à nous guider à pouvoir développer les soft skills qui sont recommandés. L'élément que j'aimerais souligner encore, c'est l'anglais. L'anglais. On ne cessera pas assez de le dire. C'est une langue indispensable dans le domaine. Et c'est dès maintenant qu'il faut commencer les bases. Et je peux dire aussi que l'anglais est un... Savoir pratiquer, savoir parler l'anglais, c'est un atout en fait. C'est ce qui te permet de te différencier de celui avec qui tu as eu la même formation. Et en ce qui concerne les recrutements proprement dit, le conseil que j'aimerais dire à mes jeunes frères, c'est de ne pas se limiter seulement aux entreprises nationales. Je veux dire, j'ai pu avoir ma formation de base dans le domaine du pétrole. Je vise les entreprises comme la SI, la PetroSI ou la GestoSI. Non, il faut aller au-delà de cela. Il faut aller au-delà même de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec Internet, je pense que c'est possible. Et encore, pour avoir cette visibilité, je reviens encore sur le même sujet du mentorat. Il faut avoir quelqu'un qui sera en mesure de nous guider et nous montrer comment se passe en fait le processus de recrutement, quels sont les atouts qu'il faut avoir. Donc, pour résumer, j'aimerais dire que la formation compte, la vision, tout part d'une vision, avoir une formation assez adaptée, développer certains talents, soft skills comme la communication, cette capacité à travailler en équipe, et ça, ça se voit en association. Hein. Quand on est déjà sous les bancs, en étant étudiant, on participe à certaines vies, à certaines associations. C'est là-bas qu'on développe en fait ces skills. Et à l'anglais, et le plus important aussi, c'est le mentorat. Donc, c'est tous ces aspects-là qui permettent en fait de pouvoir commencer une carrière, se préparer à pouvoir affronter en fait le processus de recrutement. Pour revenir encore à ta question, au dernier volet de ta question, Marc, concernant par exemple le recrutement à Schoenberger, oui, effectivement, on commence avec un test psychotechnique, c'est un test assez technique. Mais le deuxième volet du recrutement, c'est pour en fait juger en fait le côté soft skills. Et moi, je me rappelle que mon entretien avait duré toute une journée. Donc, on avait commencé à 9h pour finir à 21h. Et on avait pas mal d'activités où les recruteurs testaient en fait notre niveau en anglais, notre capacité à travailler en équipe, notre capacité à pouvoir gérer certaines situations avec ambiguïté et tout ça. Donc, c'est tout un mélange.
Waouh, de 9h à 21h, ça fait...
Vraiment stressant. Vraiment stressant, ouais. C'était vraiment stressant.
Mais ça fait peur. Mais en même temps, c'est intéressant que tu en parles parce que tu sais que nous allons avoir la Masterclass édition 2020 ce samedi, le samedi 19 décembre. Donc là, j'aimerais que tu puisses faire une adresse à ces étudiants-là, soit qui sont en train de débuter leurs études supérieures ou encore ceux qui sont en fin de cycle. Quel message tu aimerais leur passer? Ils vont affronter, pour certains, ils vont affronter les entretiens et la vie active, et pour d'autres, peut-être qu'ils n'avaient pas encore de vision claire sur ce qu'ils veulent faire demain. Donc, quelle est l'adresse que tu aimerais leur donner qui puisse les guider dans la suite de leur vie professionnel et j'aimerais même dire personnel.
D'accord, très bonne question Fadé. Pour revenir au sujet de la masterclass, je peux dire que c'est une opportunité à ne pas rater. Quand on voit en fait l'agenda de la masterclass de cette année, qui commence avec réussir son entretien d'embauche, sa négociation salariale, et ce sont des astuces qui viennent des experts des ressources humaines, donc des recruteurs. C'est une opportunité à saisir. Parce que ce genre de formation, ce genre d'atelier, vous n'allez pas les retrouver dans votre curriculum d'ingénieur ou d'étudiant. Vous n'allez pas voir un professeur qui va venir vous brosser en fait ces astuces-là. Donc, être en contact, participer à un atelier où ces personnes qui vont vous recruter viennent vous donner en fait les astuces, je pense que c'est une opportunité à ne pas saisir. Ensuite, il y a un deuxième atelier sur pousser ses études à l'étranger, sur les bourses. Et le troisième, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je pense que vraiment, la masterclass de cette année est une opportunité. Et j'invite vraiment tous mes cadres à participer à ce genre de formation. Comme je le dis, il n'y a pas que la formation de base, c'est un ensemble. C'est vrai, il faut avoir un minimum de connaissances, mais je pense qu'un homme accompli, c'est un ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Et le savoir-être, c'est des choses qui se développent. Et c'est des choses qu'on ne... On ne retrouve pas forcément en étant, en suivant la formation technique ou théorique. C'est vraiment bien de pouvoir échanger avec des professionnels qui sont dans le secteur. Donc, pour terminer, ce que j'aimerais dire comme conseil, il est vraiment important de tisser cette relation avec des professionnels qui sont dans le secteur. Et je tiens encore à renforcer ce message-là. Nos jeunes frères ont cette opportunité qu'ils voient talent offre, où ils ont la possibilité d'être en contact avec des professionnels. C'est vraiment important. Parce qu'en étant sous les bancs, on ne peut pas avoir toutes les informations. Donc, avoir quelqu'un qui côtoie en fait le secteur d'activité qu'on veut embrasser est vraiment quelque chose de salutaire, est quelque chose qu'il faudra embrasser. Avoir quelqu'un qui va nous servir de coach, qui pourra nous donner des conseils, qui pourra nous aider à pouvoir guider nos études, à pouvoir nous orienter dans... la carrière que nous voulons embrasser.
Tout a été dit, hein. Donc, les gars, ceux qui nous écoutent, si vous manquez la masterclass Ivoire Talent qui aura lieu ce samedi 19 décembre 2020, c'est que vous avez raté l'événement le plus dangereux de cette fin d'année. Et comme toute bonne chose, malheureusement, nous sommes à la fin de notre podcast. Donc, Fernandez, nous avons été vraiment heureux de te recevoir, mais on ne peut pas te laisser partir sans que tu nous dises ton mot de fin. Et voilà, nous t'écoutons.
D'accord. Ce fut un plaisir de partager cette expérience avec vos auditeurs. Comme mot de fin, j'aimerais dire à tous nos cadres et à tous vos auditeurs de croire en ce qu'ils font, avoir cette vision et mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre cette vision-là. Avoir une carrière commence par une vision et ensuite trouver les éléments pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, c'est un autre volet. Donc, mon mot de la fin sera de toujours croire en eux, de persévérer, de toujours demander, avoir cette soif de toujours apprendre ce qu'on étudie à l'école, que ce soit sur le domaine technique, développer certains soft skills. Donc, la vie associative, c'est quelque chose de primordial. Et comme je suis dans le domaine du pétrole et tout ça, j'aimerais encore réitérer l'accent sur l'anglais. L'anglais, 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 c'est le futur.
Ce qui est bien dit, l'anglais, 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 c'est le futur. Eh bien, nous avons été ravis de recevoir Fernandez Bourgui pour partager son parcours avec tous nos jeunes frères, tous nos auditeurs, toutes nos jeunes sœurs qui nous écoutent. Nous sommes malheureusement à la fin de notre podcast, de notre édition. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité aussi pertinent et aussi alléchant que Fernandez. Passez une bonne soirée et merci. Bye bye.